Bonjour. Dans la semaine dernière, il y a reçu dernièrement Bastien Mercier du collectif viticole Gironde qui nous a abordé finalement les problématiques de la viticulture girondine qui est en souffrance et déjà depuis 2-3 ans. Les chais sont pleins et malheureusement le vin est en difficulté à vendre. 400 euros le tonneau, ça ne fait même pas 50 centimes, alors qu'on en va en parler tout à l'heure, mais à l'heure actuelle, ça coûte 1,20 € à peu près le litre pour lorsqu'on produit du Bordeaux, Bordeaux générique, et il est vendu à peine à 50 centimes. Je crois que ça monte un peu, mais grave plus. Alors aujourd'hui, suite à ça, on va faire une émission spéciale sur le mal-être en agriculture et en viticulture lié au problème de cette crise, car un tiers des viticulteurs girondins sont en situation financière très difficile. Je dis bien un tiers des viticulteurs. Il y a à peu près 4000 viticulteurs en Bordelais. Sur 110 000 hectares, et il y a des aides qui vont avoir lieu par rapport à des primes d'arrachage définitives. On estime qu'il faudrait à peu près entre 30 et 40 000 hectares de vignes qui doivent être arrachées. Bon, je ne sais pas si on y arrivera, parce que c'est quand même assez compliqué, parce qu'il y a des aides, mais des aides à la fois, on en parlera justement. Je reçois Lucas Lebure de la Chambre d'agriculture de la Gironde. Il va nous brosser un état des lieux, des difficultés que rencontre la filière viticole bordelaise, puis des propositions d'accompagnement et aussi de diversification. Également, je reçois Jonathan Grandguillot, qui est responsable du service action sanitaire et sociale de la Mutualité sociale agricole de la Gironde. Elle nous présente les mesures mises en place pour les viticulteurs et les agriculteurs en situation de fragilité économique et psychologique, ainsi que les accompagnements dans les mesures qu'on appelle le réseau Sentinelle, qui a été créé il y a maintenant 2 ans. C'est repérer, alerter, agir. Et enfin, je reçois André Jollet de l'association AM Paysanne de Gascogne, AM comme accompagnement, M maintenir, E comme écouter, qui milite pour la sauvegarde du monde paysan. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, c'est une exposition spéciale sur le mal-être en viticulture lié aux problèmes psychologiques. Alors justement, on va entendre les financiers, on va entendre justement Lucas Lebure, donc de la Chambre d'agriculture, qui nous brosse justement l'état des lieux. Alors je suis à la Chambre d'agriculture de la Gironde avec Lucas Lebure, qui est technicien en charge du développement. Et on va aborder d'abord, je crois, dans un premier temps, à la demande de la préfecture, il y a une enquête auprès des viticulteurs, je crois.
Tout à fait. Donc, à la demande de la préfecture, la Chambre a réalisé donc une enquête auprès des viticulteurs girondins. Les résultats qu'on a obtenus sont assez parlants, puisque environ un tiers des viticulteurs interrogés qui se déclarent comme étant en difficulté économique.
Alors, quand on dit viticulteur, d'abord, on va resituer un petit peu le monde viticole. Il y a combien de viticulteurs ? La filière viticole représente combien de viticulteurs ?
Alors, en Gironde, on est à peu près autour de 4 à 5 000 viticulteurs.
4 à 5 000 viticulteurs. Ce qu'on disait la dernière fois, c'est que la Gironde, c'est la moitié, c'est d'abord des bois, des forêts. L'autre un quart, c'est de l'urbanisme et des routes, etc. Et l'autre quart, c'est de la surface agricole utile. Là-dedans, 80%, c'est des vignes. Donc, là-dessus, 80% des vignes. Et avec 4000 viticulteurs. Et sur 80 viticulteurs, on a resitué que finalement, un tiers des viticulteurs se situe en difficulté économique et financière au niveau de l'entreprise. C'est ça ?
Exactement. Exactement. Donc, difficulté plus ou moins avancée, mais globalement, c'est des gens qui sont à la peine pour pouvoir ne serait-ce que se rémunérer, des gens qui perdent de l'argent en travaillant tous les jours. Après, il y a une diversité des profils, hein, des gens qui se déclarent comme étant en difficulté. On peut parler du viticulteur qui a des problèmes de trésorerie qui deviennent récurrents et donc qui a du mal à faire face à ses charges, jusqu'au viticulteur qui est en procédure amiable ou collective, c'est-à-dire qui s'est déclaré au tribunal comme étant en difficulté avec des retards, des défauts de paiement. Et donc, ces viticulteurs-là, on ouvre des procédures qui vont leur permettre d'étaler les paiements. Donc voilà, on parle de procédure amiable, règlement amiable ou mandat ad hoc, et de procédure collective également, procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire. Et pour juste compléter là cette réponse, il y a environ 10% des viticulteurs qui se déclarent comme étant en difficulté qui sont inscrits dans l'une de ces procédures-là.
Alors ça veut dire qu'à l'heure actuelle, un tiers des viticulteurs en Gironde sont dans la situation où c'est que pour produire un litre de vin, je parle d'entre-deux-mers principalement, enfin Bordeaux supérieur, ça coûte 1 euro voire 1,20 euro par litre. C'est-à-dire que quand on parle du prix de Thonon, il faudrait qu'il soit 1 000, 1 200 euros. Et à l'actuelle, on était à 400 euros, voire maintenant ça remonte un peu à 700 euros, c'est ça?
Oui, tout à fait. Bon, les viticulteurs que je rencontre actuellement, donc là, voilà, on parle bien d'appellation générique, Bordeaux, Entre-deux-Mers, vendent effectivement le tonneau, c'est-à-dire un tonneau, hein, on parle de 900 litres. Dans la commercialisation, là, ils sont autour de 700 euros, 600, 700 euros le tonneau. Donc effectivement, pour des prix de revient, des coûts de production qui avoisinent les 1000, 1200 euros. Donc dès lors, on comprend bien qu'ils produisent à perte pour beaucoup d'entre eux.
Oui, d'autant plus qu'avec la crise depuis un an ukrainienne, on a d'augmentation des intrants, que ce soit, on le voit lorsqu'on veut prendre à la pompe de l'essence ou de gasoil, on voit bien le prix de l'énergie, ce qui a flambé. Il n'y a pas que ça, puisqu'il y a tous les intrants qui ont augmenté aussi. Donc ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, on a les chais qui sont pleins et que en plus, on n'a pas les moyens pour payer les factures.
Effectivement, et donc sur le coût de l'énergie, oui, vous faites bien de le rappeler, donc le coût de l'énergie a sensiblement augmenté. Effectivement, toutes les exploitations agricoles et notamment les exploitations viticoles sont des entreprises qui utilisent beaucoup l'énergie, hein, quelle qu'elle soit. Voilà, que ce soit le GNR pour les tracteurs. On parle aussi d'électricité pour faire fonctionner les chais, les exploitations globalement. Et puis, comme vous l'avez rappelé, le prix des intrants est indexé sur le prix de l'énergie. Donc, les intrants, on parle d'engrais, de produits phytosanitaires, voilà, dont le prix a flambé ces derniers mois.
Alors, si on est en bio, on traite encore plus souvent, parce qu'on est sur des préventifs, ce qui veut dire qu'il faut encore, chaque fois qu'on sort le tracteur, eh bien, le GNR, qui est le gaz non routier, qui est spécifique à l'agriculture, qui est peut-être un peu moins cher, mais enfin, chaque fois, eh bien, on dépense, bien sûr, de l'argent. Alors, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on dit qu'il y a un tiers des viticulteurs qui sont en situation, je dirais, plus que critique. Et par rapport à ça, il y a, je crois, des aides qui, à force, je crois, il y a eu des différentes manifestations sur Bordeaux. Il y a eu des prix de décidants et des montées au créneau de la part des syndicats, de CVB, etc., auprès du ministère de l'Agriculture, de l'Europe, etc. Et là, il y a pas mal d'aides qui sont apparues dernièrement de la part à la fois de l'Europe, de l'État, le ministère de l'Agriculture, la région, le CVB, etc. C'est ça?
Tout à fait. Donc voilà, là, à l'heure actuelle, il y a des aides qui sont annoncées sans qu'on connaisse encore les modalités de mise en œuvre de ces aides. Mais globalement, on peut parler d'aides à l'arrachage, donc qui devraient se situer autour de 6 000 euros de l'hectare, avec plusieurs volets. Voilà, donc c'est un peu, il y a encore un peu tôt pour parler donc, des modalités de mise en œuvre. Mais effectivement, l'Europe, l'État, la région et le CIVB mettent la main à la poche pour ouvrir ces dispositifs d'aide. Et on a aussi des aides annoncées concernant des mesures de distillation. Voilà, globalement, les deux volets principaux, arrachage, distillation, dont les modalités de mise en œuvre devraient être annoncées très prochainement.
Quand on dit arrachage, ça veut dire que c'est arrachage définitif, c'est-à-dire qu'on arrache la vigne et on ne replante pas.
Exactement. Tout à fait. Donc, voilà, en fait, il y a plusieurs mesures annoncées concernant l'arrachage définitif. On parle de renaturation, c'est-à-dire que les parcelles en question devraient être sorties de l'agriculture pendant au moins 20 ans. Et on parle aussi d'arrachage diversification, où là, les parcelles restent sur une destination agricole, mais donc serviront à cultiver autre chose que de la vigne.
Alors ça veut dire que là, on est sur un nombre d'hectares de combien? Parce que certains annoncent 40 000 hectares, on a 110 000 hectares sur la Gironde, c'est peut-être un peu trop, mais on estime à combien le nombre d'hectares qui doit être arraché?
C'est une bonne question à laquelle je vais avoir du mal à répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que sur l'enquête, les 1400 à peu près exploitations qui se déclarent comme étant en difficulté, ça représente à peu près 35 000 hectares de vignes. Voilà, je doute qu'on puisse répondre pour pouvoir arracher 35 000 hectares de vignes. Voilà, ça paraît peut-être beaucoup. Et encore une fois, voilà, il y a peut-être encore un peu tôt pour pouvoir dire combien d'hectares pourront être concernés là, par ces mesures d'arrachage.
Tout à fait. Alors, qui dit arrachage dit finalement diversification. Alors bon, il y a ceux qui, je crois qu'il y a plus de 2000 hectares qui sont déjà des vignes sont en friche. Alors, il y avait déjà l'élément, c'est arrachage pour des raisons sanitaires. Celles qui sont laissées en friche, eh bien là, on est obligé au moins de les arracher pour éviter qu'il y ait une propagation de maladies. Mais en même temps, vous avez mis en place un système de diversification. Alors, la diversification, ça peut être au sens large. Ça peut être une restructuration de l'exploitation dans la mesure où on réduit la voilure, mais il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Et c'est un peu aussi un troisième volet que vous mettez en place, vous, Chambre d'agriculture.
Oui, tout à fait. Donc, c'est la diversification est un des gros sujets du moment à la Chambre d'agriculture. Sont organisées là, actuellement à travers tout le département des rencontres diversification où on invite donc les viticulteurs et autres agriculteurs à venir se renseigner sur les possibilités de diversification en Gironde. Si vous voulez, on les invite sur ces réunions afin d'être en mesure de se poser les bonnes questions pour savoir comment diversifier, puisqu'il y a des contraintes, notamment en termes d'accès à l'eau, des contraintes agronomiques, évidemment, des contraintes de marché, puisqu'il est souhaitable, évidemment, d'avoir des filières constituées sur les productions envisagées. Donc voilà, on ne peut pas diversifier toutes les productions. Si vous voulez, il y a un cheminement à avoir, un certain nombre de questions à se poser avant de se lancer. Et donc là, des réunions actuellement sont proposées là, durant le mois de mars, sur toute la Gironde, fin mars, là, donc, si vous le souhaitez, le 23 mars à Sauveterre de Guyenne à 10h30, le 27 mars à Saint-Savin à 15h, le 29 mars à Sainte-Foy-la-Grande à 14h30 et le 30 mars à Cadillac à 16h. Voilà, je vous invite après à vous renseigner auprès de la Chambre d'agriculture pour avoir des précisions là, sur ces rencontres diversification.
Quand on dit la Gironde est impactée, c'est toutes les appellations qui sont le plus impactées ou c'est plus l'Entre-deux-Mer, le Blayé, ça ?
Ouais,
Sud-Médoc ?
Effectivement, les appellations génériques, donc Bordeaux, Bordeaux-Sup, Entre-deux-Mer, sont principalement concernées par la crise viticole. Maintenant, on se rend compte aussi qu'il y a des typologies d'exploitation viticole pour lesquelles on ne voyait pas arriver les difficultés, mais qui peuvent aussi se retrouver en difficulté. Donc c'est vrai que c'est une crise assez générale, mais avec effectivement plus de soucis sur ces appellations génériques, plus de problèmes de commercialisation. Effectivement, les appellations communales du Médoc ou prestigieuses autour de Saint-Émilion sont nettement moins concernées par cette crise.
En matière de diversification, il y a quelques pistes déjà ?
Oui, alors il y a quelques pistes envisagées. Donc, en premier lieu, les productions arboricoles. Oliviers, noisetiers sont parmi les plus cités. Mais voilà, donc là, on a une problématique certaine d'accès à l'eau et d'investissement, voilà, avec des entrées en production qui mettent qui mettent plusieurs années. Des retours sur investissement qui se font peut-être un peu attendre. Et en tout cas, ces pistes de diversification ne concernent pas forcément les viticulteurs qui aujourd'hui sont dans la plus grande difficulté économique. Ensuite, on a des activités céréalières, des activités d'élevage qui sont envisagées. Et, d'ailleurs, voilà, vous me parliez tout à l'heure de ce qui se faisait auparavant dans l'Entre-deux-Mer où on avait beaucoup d'élevage de céréales. Donc, on va peut-être y revenir petit à petit. Et de manière un peu plus marginale, on a des projets sur du maraîchage, du chanvre ou d'autres cultures, mais pour lesquelles il faut effectivement structurer des filières pour que la diversification puisse être bénéfique. Voilà.
Le premier viticulteur qui avait arraché là, il y a 15 ans, c'était un éleveur, président du groupement d'éleveurs girondins. Bon, parce que lui était d'abord éleveur dans l'âme, pas viticulteur, parce que c'est ses parents qui avaient l'exploitation viticole. Donc quand il a repris, c'est le premier qui a arraché, la première vigne qui a été arrachée, c'est un éleveur. Donc c'était pour développer l'élevage. D'accord. Donc on est bien dans labourage et pâturage, sur les deux mamelles de la France.
Tout à fait, voilà, donc sûrement des projets similaires hein, qui vont être envisagés là, à court terme en Gironde. Voilà, mais on est, c'est vrai, au début de la réflexion, enfin, certains vont voir les poils se dresser peut-être, parce que début de la réflexion, bon, il y a un certain nombre de personnes qui réfléchissent depuis un moment, mais dans la mise en œuvre, c'est vrai que là, on est au pied du mur et que ça va certainement se faire de gré ou de force, là, au fil des mois qui viennent.
Très bien, merci Lucas Lebure.
Merci à vous, avec plaisir, et puis écoutez, à bientôt.
Alors maintenant, on va voir Gauvin, le tracteur.
C'est déjà l'aube sur ta cambrousse. T'enfiles tes bottes, ta salopette. Le petit déj est pris sur le pouce. C'est ta routine 7 jours sur 7. On peut pas dire que t'es à la bourre. Toi tu connais pas les horaires. Et toute cette terre que tu laboures appartenait à ton grand-père. Y'a longtemps que tu comptes plus les heures. À quoi tu penses sur ton tracteur? Y a longtemps que tu comptes plus les heures sur ton tracteur. Tu revois ton père avec sa cotte sur le pont à 6 heures du mat. Et sur la table une petite note. Sois sage fiston et fais tes maths. N'embête pas trop ta mamie. Tu seras gentil de l'aider un peu. Je serai là pour midi et demi, pile poil pour le pot-au-feu. Dont tu te rappelles encore l'odeur quand t'as les crocs sur ton tracteur. Dont tu te rappelles encore l'odeur sur ton tracteur. Si t'as baigné dans une culture, c'est bien dans celle des haricots que tu équetais à la dure sur une pile de vieux journaux. Mamie, elle tricotait un pull en écoutant l'ancienne France Bleue. Tu le mets toujours d'ailleurs, ce pull.
Voilà, maintenant nous allons avoir Johanna Granquito, qui est responsable du service action sanitaire sociale de la Mutualité sociale agricole de la Gironde, qui nous présente justement ce fameux réseau AgriSentinelle, repérer, alerter, agir, et toutes les aides que la MSA a mis en place par rapport à la fragilité économique et psychologique des agriculteurs et viticulteurs. Alors, je suis avec Johanna Granquito de la Mutualité sociale agricole. Bonjour.
Mutualité sociale agricole. Bonjour, monsieur Cousineau.
Alors, la Mutualité sociale agricole est impliquée déjà dans les problématiques, je dirais, de mal-être, puisque ça se passe aujourd'hui, les problèmes en agriculture sur les aspects financiers, et puis l'isolement aussi en fait partie.
Tout à fait. Alors, moi, je suis responsable du service social à la Mutualité sociale agricole, mais c'est plusieurs services qui sont concernés par ces questions. Il faut savoir que la MSA, donc, depuis 2011, décline un plan de prévention du suicide, ce qui veut dire concrètement qu'en interne, un certain nombre de professionnels ont été formés à la détection du risque suicidaire pour pouvoir être sensibles à cette question et pouvoir systématiquement, lorsqu'il y a une alerte, orienter vers le service social pour que ce soit quelqu'un qui est reçu à l'accueil ou qui nous écrit ou qui nous téléphone tout simplement, puisse être recontacté donc dans la journée, qu'on puisse voir quelles sont ses difficultés et comment on peut commencer à l'accompagner et éviter le risque. Donc depuis le début de ce plan prévention suicide, Nous avons maintenant un plan prévention mal-être qui est décliné depuis début 2022. Donc là, c'est un plan interministériel, puisque ça embrasse à la fois le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture. Donc il était très important là de se mettre ensemble autour de la table sur les difficultés du monde rural et du monde agricole en particulier, pour venir en prévention le plus tôt possible. Donc là, une des priorités qui nous a été fixée par ce plan avec un coordonnateur national, c'est de mettre en place des sentinelles. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de ces sentinelles agricoles. Ça peut être n'importe quel citoyen, ce n'est pas forcément qu'un professionnel de l'agriculture, n'importe quel citoyen qui est sensible à la situation de son voisin, d'un proche ou d'un collaborateur au travail, et qui souhaitent participer à cette détection. Donc pour être sentinelle, c'est une formation d'une journée qui est financée aujourd'hui par la MSA. C'est un organisme spécialement agréé qui vous donne une certification, puisque ça vous donne les bases du repérage d'une crise suicidaire déjà, mais aussi du repérage du mal-être. Donc si vous êtes voisin d'un agriculteur, ça peut vous permettre de repérer aussi bien des signaux très forts, mais que aussi parfois des signaux très faibles, parce que nos agriculteurs, bien souvent, sont très pudiques et ne disent pas quand ils vont mal, et appellent très rarement les services sociaux pour demander de l'aide. Donc ces sentinelles sont vraiment sur le terrain, sur le territoire, et sont là pour être à l'avant-garde des postes de vraiment de repérage de ces difficultés. Alors non pas pour prendre en charge, parce qu'on ne leur demande pas ça, et ce n'est pas leur responsabilité, mais avoir surtout le carnet d'adresse vers lequel orienter. Donc ça va être très souvent orienté vers la MSA, pour que la MSA puisse après proposer un certain nombre d'accompagnements de ces agriculteurs.
Quand vous dites sentinelle, c'est donc ça a été mis en place au niveau ministériel par un ancien député qui s'occupait des problèmes de suicide, qui était député sur la circonscription de Villeneuve. On l'a vu dans un film qui est passé dernièrement avec une table ronde sur l'amour vache de Édouard Bergeon, qui soulevait le problème de suicide de son père. Et donc ces sentinelles, ça marche par département, et derrière, vous mettez en place des actions de formation un petit peu sur l'ensemble du territoire. Comment ça se passe?
Oui, tout à fait. L'objectif qui a été fixé donc par Daniel Lenoir, le coordonnateur national, et c'est effectivement suite à un rapport d'Olivier Damaisin, le député qui avait fait le tour de France pour essayer de comprendre d'où venait ce malaise et ces risques suicidaires si importants chez les agriculteurs. Donc effectivement, comme ces agriculteurs ne demandent pas, l'idée c'était vraiment d'avoir des volontaires sur le territoire. Sur un département, on évalue à minima, il faudrait une cinquantaine de sentinelles pour pouvoir bien mailler tout un territoire. Donc aujourd'hui, on est entre ceux qui viennent d'être formés et ceux qui sont déjà positionnés, on est sur une trentaine. Donc il faut vraiment qu'on continue de monter en charge. Petit à petit formé. Cette formation, elle est donc, je l'ai dit, sur une journée. Et elle est très souvent, on l'a fait faire sur Bordeaux, sur un lieu centralisé. Après, chacun retourne sur son territoire. Ensuite, on a une chargée d'études en interne à la MSA qui est là pour animer le réseau, pour faire vivre ces sentinelles, pour qu'elles puissent échanger régulièrement sur les situations qu'elles rencontrent si elles sont en difficulté, réactualiser leurs connaissances aussi, parce que toutes les ressources d'un territoire peuvent évoluer. Où est-ce qu'on trouve un psychologue le plus proche, un médecin, ou je ne sais quoi d'autre encore. Donc, dans cette animation, il y a aussi tout ce besoin d'être bien au courant des ressources internes et externes au territoire. Donc, il y a vraiment un gros enjeu aussi d'animation de ces sentinelles pour qu'elles ne se sentent pas seules sur ces territoires ruraux et qu'elles puissent aussi partager et faire du partage d'expériences entre elles.
D'accord. Donc, c'est extrêmement important de repérer finalement les gens qui ont des problèmes. Alors c'est difficile à repérer, parce que bon, c'est déterminé finalement, le voisin, on le trouve plus très en forme, il parle plus, etc.
C'est ça. Alors voilà, souvent un changement brusque d'attitude, quelqu'un qui était très jovial qui n'y est plus du tout, qui se referme, ou au contraire, quelqu'un qui avait tendance à jamais parler, puis tout d'un coup, qui vous dit énormément de choses, c'est très surprenant. Dès qu'il y a un changement comme ça d'attitude, de tempérament qui surprend, comment on voit qu'on est dans l'épuisement ou qu'il y a des signes de dépression, quelqu'un qui va vous dire qu'il ne dort plus, qu'il a perdu l'appétit, ou qu'au contraire, il a des crises de boulimie en pleine nuit, qui ne voit plus de sens à son métier. Et très souvent chez les agriculteurs, ça on le voit, ce sont des gens qui aiment passionnément ce qu'ils font. Ils ont un métier plein de sens, qui nourrit les Français la plupart du temps, donc tellement indispensable. Et en même temps, un jour, cet épuisement, il est tellement fort qu'on ne voit plus l'intérêt de se lever le matin. Pourquoi on irait, à part pour ces vaches, effectivement, mais pourquoi on irait traire les vaches? Pourquoi on irait tailler cette vigne puisqu'on n'arrive pas à vendre son vin? Pourquoi on irait labourer son champ? Voilà. On commence à être comme un robot, comme un automate. Donc, quand on a des signes comme ça, quelqu'un qui vous dit « je vois plus l'intérêt, je comprends plus à quoi ça sert, je suis découragé », plein de mots comme ça qui montrent effectivement le découragement et la perte de sens. Donc, et puis, des signes cliniques, hein, la perte de sommeil, des choses comme ça, ou des troubles de l'humeur importants, hein, des sautes d'humeur, c'est aussi un signe.
On l'a vu dans le film dernièrement, c'est la hantise de la boîte aux lettres. On ne va plus lever le courrier.
Le courrier. Ouais. Mmh. Ça, c'est... Tout à fait, oui. Ça, on l'observe souvent, effectivement, parce qu'il y a la pression administrative, le courrier qui arrive, des relances de factures, de fournisseurs, de la MSA, d'autres, le comptable, et puis on se laisse aller, on répond plus au comptable, on fait plus son bilan comptable, etc. Ça fait partie, effectivement, des choses à un moment où on peut plus être partout. On n'a plus l'énergie, on n'est plus capable, donc on fait à minima ce qu'on doit faire. Donc ça va être s'occuper de ses bêtes, mais pas du reste. Et c'est vrai qu'on le voit bien dans Le Nom de la Terre, hein. On le voit bien dans L'Amour Vache, on voit dans pas mal de documentaires et de films qui ont été faits. Et là, on voit toute l'importance du réseau. C'est là que la MSA peut proposer justement un certain nombre d'aides pour aider à sortir de l'ornière à ce moment-là où l'agriculteur est vraiment en difficulté. Donc, une des mesures phares, c'est le répit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aider via le service des remplacements des agriculteurs girondins à mettre à disposition un salarié pour venir faire des tâches que l'agriculteur n'arrive plus à faire seul ou pour le libérer pour en faire d'autres. Ça peut être, je sais pas, s'occuper de la traite, comme ça l'agriculteur est libéré pour faire sa paperasse, ou à l'inverse, plutôt quelqu'un qui va l'aider à faire tout ce qui est papier administratif et ça le libère pour aller bosser dans les vignes. Mais ça peut être aussi être remplacé pour partir. Parce qu'on a le nez dans le guidon, ça fait X années qu'on n'est jamais parti ni en week-end ni en vacances. Et c'est enfin l'occasion de se dire, voilà, il y a quelqu'un qui s'occupe de la ferme, qui s'occupe de mon exploitation, ça tourne sans moi, et je peux partir, je peux m'autoriser à aller voir la famille, faire un voyage dont j'ai rêvé, un week-end, partir une semaine en famille ou tout seul. Voilà, ça on aide donc à être remplacé. On va aider aussi à payer les vacances, ou le week-end si c'est le week-end, parce que l'agriculteur va avoir du mal à partir loin trop longtemps les premiers temps. Ça peut être aussi aider à accéder aux soins, parce qu'on constate aussi que nos agriculteurs se soignent très peu. Certains ne déclarent même pas de médecin traitant. Alors, ça peut être aussi parce que le médecin traitant est parti à la retraite et on n'a pas pris la peine d'aller chercher s'il y avait eu un remplaçant. Donc, ils prennent pas soin de leur santé. Donc, on va proposer d'aider à retrouver un médecin traitant, se faire soigner, faire un bilan. Si on a des maux de dos, je ne sais quoi d'autre, aller chercher quelle en est la cause et trouver des solutions. Ça peut aller même jusqu'à une adaptation du poste aussi. Hein. S'il y a vraiment maintenant un handicap installé, des choses qu'on ne peut plus faire soi-même, eh ben, on peut avoir un poste adapté, un salarié qui vient donner aussi de l'aide sur les actions que vous ne pouvez plus réaliser tout seul sur votre exploitation. Ça fait partie de tout ce qu'on peut proposer. Donc vraiment, tout ça, nous, notre souhait, c'est d'être le plus en amont possible avant l'épuisement professionnel et avant l'arrêt maladie. Mais on peut aussi intervenir quand l'arrêt maladie est là et que l'agriculteur s'est déjà arrêté parce qu'il n'en peut plus. Mais l'idéal, c'est d'arriver le plus en amont possible, bien sûr.
Tout à fait. Donc tout ça, ce sont des accès aux droits que beaucoup ne savent pas, quoi.
Voilà. Alors, les agriculteurs ne connaissent pas leurs droits. Ça, c'est une réalité. On le voit tous les jours. Ils ne savent pas aussi que quand leur production n'est pas suffisamment rentable, qu'elle ne leur permet pas de se verser un salaire, ils ont droit aussi au revenu de solidarité active, le RSA. Mmh. Beaucoup ne le savent pas. Un certain nombre le savent, mais ont honte, se disent, mais non, le RSA, c'est pour ceux qui n'ont pas de boulot. Moi, je fais 70 heures par semaine, je suis pas concernée. Et si? c'est un minimum que l'État français assure à un agriculteur qui travaille tous les jours, mais qui n'arrive pas à se sortir un salaire. Donc il n'y a pas de honte à demander. N'importe qui travaille mais qui n'arrive pas à vivre de son travail, eh bien en attendant que les choses s'améliorent et que économiquement ça soit rentable, il a droit au RSA. Donc nos travailleurs sociaux peuvent aider à ouvrir le droit au RSA. Maintenant c'est devenu des démarches assez simples. Et ça c'est vrai qu'on communique beaucoup sur ces questions-là. De nos agriculteurs, n'hésitez pas à demander, faites-vous accompagner, les travailleurs sociaux de la MSA sont là pour ça, pour vous accompagner dans toutes ces démarches, parce que bon, on connaît notre fonctionnement français souvent assez flou, hein, quand on n'est pas à l'intérieur, on a du mal à comprendre ces mille feuilles de dispositifs, et les travailleurs sociaux sont là pour aider à ouvrir les droits, au RSA, au répit, à trouver un remplaçant, à partir en vacances, à accéder aux loisirs aussi tout simplement, hein, comment faciliter la mobilité, l'accès aux loisirs, parce que ça fait X temps qu'on promet à ses enfants qu'on irait bien au cinéma et qu'on ne l'a jamais fait. Des choses qui sont parfois toutes simples mais qui permettent de resserrer les liens aussi de la famille.
Tout à fait. Alors, quand vous dites les travailleurs sociaux, on peut les trouver où là ?
Alors, les travailleurs sociaux, elles sont un petit peu partout sur le département, puisqu'on a 4 agences, une à l'Espar, une à Langon, une à Libourne et une à Blaye. Donc, elles sont sur ces agences. L'idéal, le plus simple, alors il y a des numéros de téléphone par agence qu'on trouve sur le site de la MSA, sur msa33.fr. Après, le plus facile, c'est d'envoyer un mail au secrétaire des travailleurs sociaux. On a un mail qui est accueilsocial.msa33.fr. Nous envoyez un mail sur cette adresse-là et on vous propose un rendez-vous avec un travailleur social. De toute façon, vous retrouvez et les numéros de téléphone et cette adresse de l'accueil social sur le site de la MSA 33.fr en notant accueil social, travail social et ça remonte. Et puis, il y a aussi une présentation qui est faite de l'ensemble des dispositifs vis-à-vis des agriculteurs. Il faut savoir aussi, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui des agriculteurs parce que c'est eux qui tiennent économiquement beaucoup, un grand pan de l'économie girondine, donc on en a besoin. On a besoin d'eux pour nous nourrir, mais on a aussi un certain nombre des dispositifs, et je ne les oublie pas, de prévention du mal-être chez les salariés agricoles. Donc on s'inquiète aussi des salariés agricoles à qui on peut proposer aussi un certain nombre de soutiens et d'aides. Donc je voulais faire cette petite aparté supplémentaire quand même pour eux.
Oui, tout à fait. Parce que bon, souvent, il y a l'exploitant, mais il a aussi des salariés.
Tout à fait. Tout à fait. Et on peut s'apercevoir qu'un exploitant qui va mal, il va avoir besoin d'être accompagné, mais il peut y avoir un impact, surtout si c'est une petite exploitation, qu'il a un ou deux salariés permanents, qui du coup sont très inquiets de l'avenir, on voit bien que le patron ne va pas bien, et il peut y avoir besoin du coup d'un accompagnement de l'ensemble. Donc on n'oublie personne dans ces moments-là, on ne laissera personne sur le bord de la route. Et alors, du coup, ces salariés peuvent être eux-mêmes des sentinelles. Hein, où on voit des situations où ce sont les salariés parfois qui appellent pour les agriculteurs. Dire, je sais que mon patron n'appellera jamais, il est trop fier, mais il a besoin parce qu'en ce moment, ça ne va pas. Et on a l'inverse, des agriculteurs qui appellent pour leurs salariés en disant, oh là là, moi je m'en sors, je vais y arriver, avec ma femme on serre les coudes, mais mon salarié ça va mal. Donc il y a quand même beaucoup de bienveillance entre les gens, et d'où l'intérêt de développer ces sentinelles. Et si justement parmi vos auditeurs il y a des gens qui sont intéressés pour devenir sentinelle ou d'avoir au moins les informations sur comment ça se passe et qui aimeraient faire cette formation qui est gratuite sur une journée, rencontrer d'autres sentinelles, c'est tout à fait possible en nous contactant toujours à l'accueil social à la MSA de Gironde. On pourra, il y a des sessions de formation là dès avril, on les accueillera avec plaisir pour se serrer les coudes dans cette grande mission qu'on a tous là aujourd'hui, de prendre soin de notre agriculture.
Donc un numéro de téléphone peut-être ?
Oui, je peux laisser un numéro de téléphone. Je vais laisser le 05 56 01 48 28 et les 05 56 01 83 30. Ce sont les deux numéros du secrétariat, 01 48 28 et 01 83 30.
Alors, on va répéter un peu, parce que souvent, le temps qu'on prenne un silo et qu'on note. Oui. Alors, le premier appel, si on veut appeler, c'est le 05 56 01 48 28.
Oui.
Ça, c'est on tombe sur la MSA ?
Oui, c'est le secrétariat de l'accueil social. Donc là, vous êtes sûr de tomber sur le service social. Les deux numéros que je donne, c'est ceux-là. Oui.
Et après, 05 56 01 83 30.
Voilà, tout à fait.
Pareil, donc toujours service social de la Mutualité sociale agricole de la Gironde.
Tout à fait. Donc, c'est tous les jours, le téléphone, c'est tous les jours de 9h à midi. Si vous ne pouvez pas appeler sur les horaires du matin, c'est pour ça que je donnais cette adresse aussi, de l'accueil social, @msa33.msa.fr.
Très bien. Écoutez, merci, Madame Johanna Granodo, Grand Guillot, de nous avoir finalement éclairé sur toutes ces problématiques qui sont à l'heure actuelle très récurrentes dans le secteur girondin.
Ben, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'expliquer tout ça. Et puis j'attends du coup avec plaisir des messages ou des appels de vos auditeurs s'ils sont intéressés ou s'ils ont des questions, des choses n'étaient pas claires et qu'ils ont besoin qu'on y réponde, avec plaisir pour répondre à leurs interrogations. Merci beaucoup à vous, Monsieur Cousineau.
Merci. Voilà, maintenant Julien Doré nous chante La Fièvre, et justement on est en état de fièvre. Entendu André Jollet, donc La Fièvre, et bien justement La Fièvre, André Jollet de l'association Âme Paysanne de Gascogne, Âme comme accompagne, maintenir, écouter, qui milite pour la sauvegarde du monde paysan. Bonjour André Jollet.
Bonjour.
Alors, André Jollet, Radio Entremer, c'est une longue histoire pour vous.
Oui, mais figurez-vous que j'ai été au tout départ, et j'ai été la trésorière de Radio Entremer, et de temps en temps quand même on m'a interviewé sur mes différents bénévolats de l'époque.
D'accord, donc c'était en 1881, donc ça, voilà. ça nous fait une sacrée jeunesse.
Oui, c'est ça, me rajeunit beaucoup.
Alors, vous, votre métier, c'était...
J'étais comptable dans le milieu agricole. Dans
oui.
Donc j'étais comptable à Sauveterre.
Ah, Serre France, centre gestion.
Non, j'étais à la COGEFA.
À COGEFA, d'accord.
Voilà. Enfin, j'ai fait un parcours à Serre France aussi, mais c'était sur Bordeaux.
Oui, sur Bordeaux, article. Et puis après, sur d'autres centres de comptabilité, de gestion, etc.
Donc, j'ai fait mon temps à Sauveterre, et ensuite, je suis partie, et j'ai fait un temps comme animatrice formatrice à la FOG.
À la FOG
33, qui est une association de formation à la gestion collective, où les agriculteurs, les paysans, se prennent en charge, se forment pour... acquérir une certaine autonomie et réfléchir en groupe sur les problématiques de la situation de leur exploitation.
Oui, d'accord.
Avec des formations à la clé.
Ça veut dire que vous avez parcouru à travers votre expérience professionnelle, finalement, tout le monde agricole et viticole du Bordelais, à travers différents centres de comptabilité de gestion.
Voilà.
Donc on touche un peu à tout à ce moment-là. Mmh. Alors, et à côté de ça, vous êtes toujours milité pour finalement aider les paysans, les agriculteurs, à essayer de finalement de mieux gérer leur exploitation et surtout de prévoir, quand vous dites AM, vous pouvez parler de cette association.
Alors AM Paysan Gascogne a été créée en 2016, donc pour accompagner, justement, maintenir et écouter les agriculteurs et surtout respecter ce qu'ils sont.
Alors, ça s'appelle un peu ce qu'on appelle les agrédifs, agriculteurs en difficulté.
Voilà, c'est ça. Ils font appel à notre association, soit par le bouche à oreille, soit les organismes nous les envoient, que ce soit la mutualité sociale agricole, la chambre d'agriculture, le tribunal ou les mandataires.
Oui.
Mandataires judiciaires. Ensuite, il y a le point justice à Langon, où on tient une permanence deux fois par mois. Et ensuite, quand il y a eu cette rencontre, c'est de les accompagner dans leurs difficultés, leur redonner leur dignité, la confiance, leur permettre une certaine autonomie, leur permettre de croire en eux.
Parce qu'on est un peu découragé, ce que disait Johanna Granico, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus à l'écoute, on n'a plus envie pas de se lever. Mais enfin, on le voit à travers Au nom de la Terre, le film d'Edouard Bergeon, et puis L'amour vache, j'en citais un petit peu, puisqu'il est sorti dernièrement, sur les problèmes, finalement. Là, c'est un autre élément. Le premier était un éleveur de poulets, le deuxième est un éleveur dans le Béarn qui, donc, avec la fièvre aphteuse, la brucellose, est obligé d'abattre tout le troupeau. Donc, c'est un déchirement complet au niveau de l'exploitation. Et d'autant plus que le député qui s'occupe maintenant au niveau du ministère de la Culture, qui était député de la circonscription de Villeneuve, d'Amezin, qui finalement a parcouru toute la France par rapport au problème de suicide en agriculture, puisqu'il y a quand même beaucoup de suicides. Hein. C'est quand même le secteur qui est le plus impacté par rapport à cette problématique-là. Et donc, il est maintenant au ministère de l'Agriculture, et donc ils ont mis en place un sentinelle qui permet finalement de repérer, alerter et agir, et donc vous êtes en plein dedans. Il y a longtemps que vous militez à ce niveau-là.
Oui, en fait, je crois qu'on était déjà des sentinelles sans le savoir. On était déjà d'anticiper un petit peu les problématiques de soit de partir dignement, soit de retrouver du sens et à retrouver la culture et reprendre l'activité de la vigne. Parce que ou autre, parce qu'il y a le maraîchage et l'élevage, tout le monde est impacté par les différentes crises. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que l'agriculteur, le viticulteur, le maraîcher ou l'éleveur, souvent, c'était toute une génération, il se trouve en situation d'échec. Et donc, il faut reprendre tout ça, leur dire que non, il y a le contexte économique. Quand on voit, et vous en avez parlé, que le vin à 400 et quelques euros, moi, j'ai vu un agriculteur, c'est parti parce qu'il avait un besoin de trésorerie.
Oui.
Donc, voilà. On parle d'arrachage de vignes, mais ça va être un crève-cœur pour certains, parce que les vignes sont assez jeunes. Mmh. Ensuite, il va y avoir... je ne sais pas s'ils ont parlé de distillerie, mais...
Oui, tout à fait. Bon,
voilà.
Ça,
parce que là, tout ça, moi, je l'ai dit dans un soutien au groupe de Didier...
Collectif.
Au collectif viticole. Voilà. Que ce sont des rustines. Il n'y a pas une politique globale sur l'ensemble de nos territoires girondins, puisque oui. ça se passe aussi ailleurs. On voit que dans l'Anjou, dans le Midi, les mêmes problématiques se posent pour les agriculteurs. Ce qu'il faut éviter, c'est que l'agriculteur se sente culpabilisé.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il se culpabilise, parce que finalement, oui. il n'est pour rien.
Et, oui.
Alors, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, c'est que finalement, on était en situation déjà d'excédent, plus ou moins dans les années 2000, c'est-à-dire quand les vins nouveaux arrivaient d'Argentine, Californie, Afrique du Sud, Australie, etc., Nouvelle-Zélande, on était à des coûts de production qui arrivaient sur le port de Bordeaux à des prix en dessous de ce qu'on produisait ici, et on continuait à planter. Donc on a eu une méthode d'arrachage qui a été faite au niveau européen dans les années 2005, mais ici il y en a très peu, très peu d'hectares qui ont été arrachés.
C'est ça. Et moi, je crois que les programmes qui ont été lancés de planter, surtout dans l'entre-deux-mers, depuis. Puisque moi, j'ai commencé à travailler en 82-83.
Oui.
Je voyais des vaches, je voyais des prairies, absolument. Je voyais des luzernes, du maïs, du sorgho, etc. Et tout d'un coup, des bois. Et tout d'un coup, on a arraché, planté. Et aujourd'hui.
On est planté.
Il faut déplanter, il faut arracher. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y a eu des efforts de fait pour la qualité du vin, des efforts de fait pour améliorer les chais, pour améliorer la vinification. Tout ça, comme vous l'avez dit, il y a un coût de production. Et j'ai retrouvé une page de l'Union Girondine de 90, je crois, 91, où les prix du vin sont... était de, si on le transforme en euros aujourd'hui, oui. sont à 1100. Oui. Par contre, les coûts de production étaient à 400, 500 euros.
Oui, oui,
et ça. Aujourd'hui, les coûts de production sont au-delà du coût de la vente des vins. Donc, le pauvre viticulteur, il se lève, il a déjà un déficit en pensant que...
Oui.
Voilà.
C'est-à-dire que, grosso modo... On a dit que pour produire un litre de vin, en Bordeaux, ça coûte à peu près 1,20 € et il est payé à 50 centimes.
Voilà, exactement.
Donc, et s'il arrive à être payé. Donc, parce que là, on a des difficultés. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont rentrés en jeu. Il y a plusieurs. D'abord, il y a la fermeture du marché chinois. Il y a le Covid qui a extrêmement. Il a complètement tout arrêté. L'économie a repris par ailleurs. Ici, alors, il ne faut pas oublier, c'est qu'un viticulteur. Il fait vivre en amont, en aval, à peu près une dizaine de personnes. C'est quand même le secteur qui emploie et qui fait travailler quand même beaucoup de monde. Donc si la viticulture souffre, tout le secteur viticole, toute la filière est impactée, et sérieusement.
Vous avez parfaitement raison, parce que on voit les imprimeurs, les étiquettes, le verre, la mécanique, les prestataires de services, quels qu'ils soient, les comptables, etc., le tertiaire. Donc, ça impacte, comme vous dites, il va y avoir un manque économique quelque part.
Absolument.
Ensuite, ce que je voulais dire, donc, quand nos amis viennent nous contacter, c'est donc l'écoute. On hiérarchise les urgences, et souvent les urgences, c'est de calmer et d'apporter, une confiance, puisqu'ils ont perdu confiance en leur organisme, que ce soit la MSA, la Chambre ou toutes les banques. Donc c'est reprendre contact, donc par le biais de Âmes Paysans Gascogne, donc à travers les bénévoles. Donc, mail, etc., coup de fil, en fonction du désir, des besoins de l'agriculteur. On leur dit les choses et c'est à eux à décider. Le discernement, c'est eux qui l'ont.
Oui, tout à fait.
On leur apporte consciemment ce qui peut être fait et eux, en fonction de ce qu'ils sont, donc on respecte la personne. Et du coup, il nous dit c'est ça. Donc, il y a des réflexions sur est-ce qu'on fait, on demande un échéancier, comment, etc. Donc, il y a vraiment entre nous des dialogues respectueux. Et ensuite, on propose. Les organismes valident ou demandent un complément d'information, oui. Donc la comptabilité, donc les comptabilités ben, souvent ne sont pas faites parce que les honoraires ne sont pas payés. Donc il faut pallier, trouver des personnes qui soient un comptable. Bon, pendant un certain temps, je l'ai fait puisque c'était mon métier. Voilà, donc ça n'avait pas de conséquences graves parce qu'il n'y avait pas à certifier quoi que ce soit. Mais il y avait un document légal, enfin oui, légal, puisqu'on faisait l'alias fiscal, pour permettre la connaissance de l'activité de bénéfice ou perte, de l'activité de l'exploitation. Ensuite, il y a, quand c'est plus grave, réflexion sur une cessation, de, ce qu'on appelle le dépôt de bilan, cessation de paiement. Donc, c'est les aider, expliquer. Donc, on a tout un travail pédagogique à faire en leur disant que non, ils vont au tribunal, mais ils n'ont pas tué, etc.
C'est ça.
Tous ces mots leur font peur.
Mais moi, j'ai eu l'occasion de suivre Serre France, hein, justement, par rapport aux agriculteurs agressifs pendant une journée avec des techniciens. Et c'est vrai qu'ils n'imaginent pas que finalement, ils sont un peu des sauveurs. Les personnes qui sont là, parce que c'est peut-être leur dernier bout de chance, finalement. Et c'est extrêmement important, parce que finalement, c'est à travers l'écoute et l'accompagnement qu'on peut arriver à sortir des gens qui étaient sur le bord de la route, et les remettre sur la route, quoi.
Oui. Et moi, je peux dire aussi que certains de nos adhérents sont vraiment en mal-être psychologique, moral, au bord du bord. Donc, le fait de nous avoir rencontrés, ça leur a donné un second souffle. Donc, quand je dis sentinelle, on est peut-être là. Je ne sais pas, mais... Donc, il va nous être proposé des formations, justement, dans ce cadre-là, pour une meilleure écoute. Alors, moi, j'ai fait pas mal de formations sur la communication non violente, etc. Bon. Justement, pour permettre cet échange après et d'apaiser la personne qui est en souffrance morale, physique, puisque ça génère aussi des problématiques physiques au niveau de la santé.
Oui, c'est-à-dire que les gens ne dorment plus, enfin, oui, bon, on a quand même beaucoup d'éléments qui font que des sortes d'humeur, après, derrière, etc. C'est des éléments avant-coureurs par rapport à une certaine détresse et finalement une dépression, quoi. Un état dépressif.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que le Covid, pour toutes les activités, a été vraiment un frein économique pour ces personnes. Puisque plus de salons, plus de foires expositions, etc. Alors, ceux qui s'en sont sortis, entre guillemets, un peu mieux, c'est ceux qui étaient en bio, puisqu'ils avaient un réseau commercial ou un réseau qu'ils avaient créé auprès d'une clientèle particulière. Ils s'en sont sortis un peu mieux, mais ce n'est pas si évident que ça.
Non.
Ils s'en sont sortis un peu mieux, mais voilà. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à nos missions, c'est que je voudrais faire presque un appel à bénévoles, parce qu'on est peu, et c'est vrai que c'est...
Vous êtes tous des bénévoles dans votre association?
Oui, tous. On n'a pas de bureau.
Oui. Ah, vous n'avez pas de bureau?
Non.
Et comment vous recevez les gens, alors?
Mais moi, je les reçois chez moi, ou alors à la DAR de Langon.
À la DAR, la Chambre d'Agriculture.
À la Chambre d'Agriculture.
D'accord, Chambre d'Agriculture
et au point justice à Langon, voilà. Ou chez eux.
D'accord. Ou alors on se rend chez eux. Vous rendez chez eux pour...
Voilà, parce qu'ils ont les papiers, parce que, bon, voilà. Et ça permet de mieux comprendre aussi des situations quand on voit la détresse des papiers, des enveloppes pas ouvertes, des...
C'est la question, c'est à un moment donné, on ne va pas chercher la boîte aux lettres parce qu'on a peur qu'il y ait encore quelque chose.
Un recommandé à aller chercher, etc. Ils ont la peur au ventre.
Tout à fait.
Ils ont la peur au ventre, inquiets, que va devenir mon exploitation, vu les cours du vin, les cours au niveau de la vente des parcelles de vignes. Quand ils veulent vendre.
Oui.
La SAFER, elle est saturée de conventions de mise à disposition, de fermage. Donc, tout le monde.
Il y a plus de 2000 hectares de vignes qui sont en friche. Là.
Oui, oui. Bon, je le vois quand je fais la route depuis Cadillac, en allant chez les paysans. La déshérence, comme je dis, des propriétés en déshérence. Et là, ça se voit d'autant plus qu'elles ne sont plus taillées.
Oui, c'est ça.
Donc on voit le mal-être, on voit ce mal-être de baisser les bras. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Enfin, ils n'en peuvent plus.
Oui. Et depuis que vous avez mis en place cette association, que vous militez par rapport à ça, qu'est-ce que, avec le recul, vous avez pu quand même en sauver quand même pas mal, non ?
Alors, c'est vrai qu'il y a des résultats positifs où on a réussi à que certains puissent partir à la retraite, dignement. Soit ils ont vendu leur exploitation, mais ils sont partis dignement. Soit on a réussi des plans de redressement qu'ils payent le pacte.
Oui, c'est-à-dire que finalement, on a toujours peur quand on est en redressement, c'est finalement, c'est pas très honorifique, mais finalement,
c'est comme un emprunt.
On est à les dettes, quoi.
Oui, voilà. Hein? C'est un emprunt qui est fait virtuellement, mais qui est fait. Mmh. Et disons que sur 10, 12 ans, ils vont assumer ces règlements.
Ça permet finalement de respirer, quoi.
De respirer.
Ouais, ouais. De respirer. Alors c'est certain, c'est un peu l'épée de Damoclès, hein, parce que quand on est en redressement, c'est jamais honorer. Trigué, quoi.
C'est pas trigué.
Mais, on est à les dettes, quoi. Hein,
voilà. C'est ça. Disons, c'est des sorties dignes. Mmh. Malheureusement, il y en a qui peuvent partir en liquidation. Oui. Et là aussi, on essaie de trouver des solutions de reconversion, de vente de la propriété pour amoindrir et puis que la personne soit se reconvertit, soit puisse prendre une retraite aussi, puisqu'il y en a qui ont dépassé l'âge de la retraite des 62 ans actuellement et qui sont toujours en activité parce qu'il y a un plan de redressement.
Et oui. Alors ça, bon, avec tout ça, vous avez pu quand même sauver...
Oui. C'est vrai que c'est une joie intérieure, pour moi, une joie intérieure et même pour les autres, de réussir là où on pensait que c'était impossible. Donc moi je dis, il faut aller jusqu'au bout du bout, il faut être pugnace, respectueux, tolérant, et je pense que ces qualités-là permettent des relations cordiales, même avec les institutions.
Oui, parce que vous êtes en lien, vous faites un peu
le trait d'union.
Oui, tout à fait, vous faites le trait d'union entre l'agriculteur et le viticulteur en difficulté et toutes les instances dont vous connaissez les personnes qui sont derrière.
Voilà, exactement.
Pour pouvoir finalement être à l'écoute et de pouvoir apporter finalement une solution à la problématique de chacun.
Oui, et en fait, c'est un esprit de confiance, je dis, avec les institutions. Donc depuis 2016, elles savent comment on fonctionne. Bon, moi, elles me connaissaient auparavant aussi par d'autres responsabilités. Et je pense que ces relations de confiance, c'est important. C'est pour ça qu'à l'agriculteur, je lui dis, est-ce que tu m'as tout dit ? Qu'on ne me sorte pas un truc du chapeau, quoi.
Eh oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça.
Enfin, j'utilise souvent des mots simples, mais c'est pour expliquer qu'on utilise, nous aussi, des mots simples.
D'accord. Parce que là, finalement, c'est vous avez votre association, il y a un numéro de téléphone, peut-être, pour...
Alors, c'est mon numéro de portable, pour l'instant.
Ah, d'accord. OK. Voilà. Alors, c'est quoi le numéro de portable C'est souvent comme ça, on ne se rappelle pas son numéro.
Oui, c'est le 06-05-25-73-05, je crois.
Ah,
il faudrait que j'aille contrôler.
On va peut-être faire une petite pause musicale, le temps qu'on puisse retrouver tout ça. Alors, pour avoir le numéro de l'association Âme Paysanne Gascogne, il suffit d'appeler qui, là
Pour l'instant, moi.
Oui, André Jollet.
Jollet.
Donc, alors, il y a un numéro de téléphone ?
Donc, c'est le 06.
Oui.
05.
06 05.
25.
25.
73 05.
73.
Et surtout qu'il laisse un message.
73 05.
Parce que je ne réponds pas aux annonces bizarres.
D'accord. Donc, il suffit de laisser un message et André Jollet viendra à votre écoute. Voilà, on va répondre. Donc l'émission s'achève justement sur André Jollet de l'association Âme Paysanne de Gascogne. On a entendu auparavant Lucas Lebure de la Chambre de Culture de Gironde, qui nous a brossé l'état des lieux, difficultés de rencontre de filières viticoles. Et puis Johanna Grangito qui nous a parlé surtout des aides qu'il peut y avoir au niveau des agriculteurs par rapport aux fragilités économiques et psychologiques, et puis l'accompagnement dans les mesures du réseau Agri-Sentinelle. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.
Puisque les gens se voyaient autrement, c'est différent que j'ai choisi d'être. Les liens du sang s'envolent avec le temps, auprès du grand, là où les étoiles naissent. Des airs de sable emportés par le vent, là où la neige finit par apparaître. J'ai lu des fables qui mentaient aux enfants, petit déjà, j'ai su le reconnaître. J'suis pas fait pour la foule, c'est ce que je pensais. Puisque ce monde est fou, autant se mélanger. Mélanger.
Mélanger.
Mélanger.
Mélanger.
Du rire aux larmes, j'ai vu les sentiments aller venir, s'enfuir par la fenêtre. Même les armes ne blessent pas autant qu'un homme meurtri qui a perdu la tête. J'suis pas fait pour la foule, c'est ce que